rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour notre rencontre hebdomadaire avec un des évêques de notre région. Nous sommes pendant ce mois de mai chez Monseigneur Fonlu. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Dans l'évêché de Rodez, en Aveyron. Et nous avons commencé à balayer ces deux dernières semaines les fruits du synode diocésain qui a eu lieu en 2017 et dont on voit aujourd'hui les premières décisions aboutir et les premiers signes manifestes arriver. La semaine dernière, nous avons parlé beaucoup des fraternités de prêtres, des fraternités missionnaires. Et là, commençons peut-être, Monseigneur Fonlu, par évoquer ce que vous avez baptisé de diaconie de l'Aveyron. Alors, le service du frère, ce n'est pas une nouveauté dans l'Église, évidemment. Pourquoi ce nom de baptême? Pourquoi dire la diaconie de l'Aveyron? Qu'est-ce que ça apporte de plus?
On a parlé beaucoup la dernière fois des fraternités de proximité. Mmh. Hein, et donc, je vous disais que c'est une nous inviter, nous soutenir dans une prise de conscience que le lien au Christ noue entre nous des relations de fraternité dont nous avons besoin de prendre la mesure. Et je crois qu'en même temps, nous avons à comprendre que cette fraternité n'est pas limitée à quelques-uns, hein, quelques bénéficiaires, oui, mais que cette fraternité, elle est à s'élargir à l'ensemble de l'humanité. Hein. Et donc, il nous appartient aussi de nous aider véritablement à ce que notre manière d'être en communauté chrétienne soit ouverte à une dimension de fraternité avec tout homme. Hein. Donc, la dimension de la diaconie, hein, c'est la dimension du service et du service du frère. Hein. Et il existe bien des aspects déjà, hein, par des organismes, par des services,
des
par des mouvements,
hein, oui.
Par le Secours catholique, par le diaconat lui-même aussi qui participe pour sa part. L'idée, c'est de se dire comment on pourrait travailler à faire exister un peu comme une ambiance d'église, hein, qui invite l'ensemble des baptisés à être attentif aux plus pauvres, hein, et à vivre avec eux dans un souci de fraternité, quoi. Hein. Comment faire que l'attention aux plus pauvres soit pas réservée à quelques-uns, hein, qui en deviendraient des spécialistes ou qui s'y engageraient de manière particulière, mais comment faire que notre Église soit un peu naturellement et profondément ouverte et accueillante aux plus pauvres. Quoi,
que la diaconie soit le souci de chaque chrétien, de la même manière que la fréquentation des sacrements l'est,
voilà,
que le service du frère soit aussi au centre de la vie de chaque chrétien.
Tout à fait,
est-ce que ça se vit à partir des communautés, des fraternités missionnaires, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient différemment?
Alors, on va voir, hein, on va voir. Moi, j'ai demandé pour le moment à un diacre, hein, qui est dans le sud du département, à Sainte-Afrique, et puis à une personne qui est à Millau et qui est responsable de l'antenne du Secours catholique à Millau, de réfléchir à ça. Vous voyez, c'est à la fois une manière de pouvoir relier ou fédérer un certain nombre d'initiatives qui sont vécues dans ce sens-là. Chez moi, il y a beaucoup d'équipes, par exemple, du Secours catholique qui sont très présentes et très actives dans un certain nombre de lieux du département. La pastorale des migrants travaille beaucoup, par exemple, un accueil de familles migrants et à une attention, une sensibilisation, à un engagement concret dans ce domaine-là. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de domaines et on pourrait en évoquer d'autres. Pensez à la conférence à Saint-Paul ou à d'autres lieux. Donc, vous voyez, on a des lieux de notre vie ecclésiale déjà, qui sont déjà attentifs et qui sont préoccupés d'être accueillants aux frères. Ce qui est important, c'est qu'on s'aide à y entrer d'une manière plus globale. Donc, il y a peut-être d'abord à faire que ces lieux-là ne s'ignore pas plus que de raison, vous voyez, que chacun soit pas dans son tuyau, mais que on se parle et qu'on mesure la richesse ou la complémentarité des initiatives portées par les uns par les autres, et puis qu'on se demande aussi comment cela peut nous aider, peut nous inviter à travailler une mentalité qui anime un petit peu l'ensemble des communautés, quoi. Hein. Je pense qu'on y est quelque part, je crois, de plus en plus sensible. Hein. Le pape François nous aide beaucoup à ça. Hein. C'est lui qui quand même, il a une ses premières paroles fortes, c'était dire comme j'aimerais une église pauvre pour les pauvres. Hein, bon. Et on se rend bien compte aujourd'hui que on peut pas être simplement une église qui atteste de la foi de manière théorique si elle l'inscrit pas de façon très concrète dans sa manière de rejoindre les personnes, et particulièrement les personnes les plus démunies. Alors même qu'on est dans un temps où notre société génère aussi beaucoup de gens qui sont fragiles par un aspect ou par un autre. Hein. Donc je crois que c'est à la fois quelque chose auquel on est sensible, c'est quelque chose aussi auquel on résiste peut-être parfois parce que c'est pas toujours si simple que ça de se tourner vers l'autre. Hein. On peut regarder par exemple, je trouve toute la question des questions que pose la question de l'accueil des migrants aujourd'hui, hein, traverse nos communautés chrétiennes comme elles traversent la société. Hein. Et donc on a cédé à rentrer dans pourquoi l'Église a un discours d'accueil des migrants qui peut paraître un discours parfois un peu naïf, un peu
en tout cas radical,
et en tout cas fort. Et au nom de quoi et qu'est-ce que ça appelle pour nous? Donc créer une diaconie de l'Aveyron, vous voyez, c'est de se dire comment faire petit à petit que quand on pense Église en Aveyron, mais ailleurs aussi j'espère, quand on pense Église en Aveyron. Comment on peut penser une église qui est ouverte à toute personne et à toute personne dans sa pauvreté, quoi.
Oui, c'est un beau défi, notamment effectivement dans la fédération des acteurs qui travaillent ensemble et qu'ensemble ils soient plus ouverts vers les communautés qui se retrouveront donc effectivement en fraternité missionnaire.
Voilà.
Ça faut que ça marche dans les deux sens. Une autre des décisions qu'on a notées, c'est la création de maisons de vie. Vous avez utilisé, entre guillemets, un mot que je trouve très beau, le lieu manifeste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là?
Ça, c'est plus au niveau des paroisses.
Oui.
Hein, je vous disais qu'il y a 36 paroisses dans le diocèse. Et une paroisse, il suffit pas de la définir administrativement sur un document. Il faut la faire vivre et la donner à percevoir.
Mmh. Hein.
Et donc, quand on parle de lieu manifeste, c'est-à-dire que quand on pense spontanément à une paroisse, quel est le lieu auquel on pense?
L'église.
Hein? L'église ou le lieu où les chrétiens vont se rassembler. Enfin,
la salle de réunion.
Voilà, hein? Donc, quel est dans chaque paroisse, quel est le lieu centre peut-être qu'on peut repérer, quel est...
Le lieu où on aime se retrouver.
Le lieu où on aimerait, où on peut être invité à se retrouver. Quoi. Mm-hmm. Donc, le lieu manifeste, c'est faire exister quelque chose qui fasse signe.
Et vers l'extérieur aussi, donc.
Qui fascine pour les chrétiens, mais
pour
qui fascine aussi extérieurement.
D'accord. Hein.
Et donc, on a laissé surgir un petit peu cette idée de faire exister des maisons de vie. Hein. Alors, maisons de vie, vous voyez, c'est un espèce de glissement par rapport à presbytère. Hein. Quand on disait presbytère, c'était la maison de monsieur le curé.
C'est ça, c'est l'endroit où il habite, où il mange, et voilà.
Voilà, mais qui en même temps, depuis déjà pas mal de temps, c'est quand même beaucoup transformé, puisqu'on sait que dans le presbytère, il y a des permanences, il y a des lions, il y a des chrétiens qui accueillent, il y a des activités de gestion de la paroisse, il y a éventuellement des rencontres, etc. Bon, tous ces éléments-là existent, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire exister dans chaque paroisse un lieu qui soit un lieu où respire la vie de la paroisse, où respire la vie des personnes, où respire la vie des chrétiens, hein, et où donc on sait qu'on pourra venir à la limite pour prendre un café, ou parce qu'on y trouvera quelqu'un, ou parce qu'on sait qu'on pourra dialoguer avec quelqu'un, ou parce qu'on pourra aussi trouver une réponse précise à une question que l'on se pose, etc. Voilà. Donc c'est une manière un peu de transformer ces lieux-là en des lieux de respiration un peu habituels de la vie de la paroisse. Et donc c'est une gageure assez importante, hein. C'est une ambition importante qui sera peut-être difficile à réaliser dans tel ou tel lieu plus fragile, voyez, mais qui est aussi un bel horizon,
oui,
hein, qui est de se dire alors il y a des endroits, par exemple, je pense l'an dernier il y a eu une belle restauration du presbytère de Villefranche de Rouergue. Hein, qui est proche de la collégiale de Villefranche, et c'est une restauration qui a été faite avec qualité et où l'architecture, d'une certaine manière, en amont un peu de la décision du synode, a essayé de penser ça. Hein, si vous découvrez aussi, des personnes découvrent un jour le presbytère de Villefranche, c'est un lieu qui est naturellement accueillant, avec un espace, un hall relativement important pour une maison paroissiale, avec des personnes qui accueillent, et où du coup, un peu naturellement, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui passent, et c'est un nouveau prêtre que j'ai nommé là sur cette paroisse-là, qui dit son étonnement un peu de voir que c'est un lieu où tout le monde passe. Bon, le jeudi, il y a un marché qui est au pied de la collégiale. Eh bien, le jeudi, il y a un café qui est offert et les gens qui viennent peuvent venir pour partager un café, etc. Voilà, donc c'est ce type d'initiative qui demande des aménagements immobiliers.
Oui, ça demande peut-être un souci du beau aussi, d'avoir envie d'être bien dans cet endroit.
Ouais, ouais.
Donc d'éduquer aussi notre regard. On n'est pas obligé d'avoir de sa paroissienne.
C'est créer un espace où on soit redevenir. Voilà, voilà. Hein, parce qu'on s'y sent bien, mm-hmm. parce qu'on y est accueilli, parce qu'il peut s'y passer quelque chose. Donc ça dépend du lieu, ça demande des travaux d'aménagement. Hein, donc il y a un travail immobilier important, et du coup un effort immobilier et financier important. Et il y a plusieurs paroisses actuellement qui travaillent un petit peu dans ce domaine-là. Ça demande que des personnes s'y investissent. Hein, on ne crée pas un lieu de vie s'il n'y a personne pour vous ouvrir la porte. Hein. Et puis ça demande qu'on soit imaginatif sur un certain nombre d'initiatives.
Il y a aussi un lien avec le début de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on parle d'accueil, quand on parle d'ouverture, le lien avec la diaconie est évident aussi, parce qu'une maison ouverte, une maison où on a envie de rentrer, et bien la plus fragile ose y rentrer.
Absolument. Absolument. Donc c'est un... Analogiquement, on peut penser, vous voyez, quand on connaît un monastère, les hôtelleries des monastères ou les magasins des monastères, vous voyez, sont des lieux où vous êtes accueillis. Quoi. Hein, il n'y a pas simplement des choses proposées, mais il y a aussi des personnes qui vous accueillent. Et du coup, c'est aussi ce qui crée cette relation et qui permet d'entrer dans le mystère du lieu. Bien, les maisons de vie dans une paroisse, c'est aussi un lieu qui peut... peut-être permettre d'être accueilli et d'entrer dans le mystère de l'Église dont nous attachons à témoigner. Quoi. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il y a des personnes aussi qui rentreront par cette porte-là, hein, dans la vie de l'Église, alors qu'ils rentreront pas forcément par la porte de la formation dont on parlait une des semaines précédentes, ou qui rentreront pas par la porte d'un engagement dans la catéchèse ou dans un autre lieu. Quoi.
Ouvrons les portes.
Voilà.
Merci Monseigneur Fonlui, à la semaine prochaine.
Merci.
Rencontre avec nos évêques.